Ici Ezoa. Vous écoutez le podcast du volet audio des éditions de l'Avenir.
Bonjour et bienvenue au podcast des productions audio des éditions de l'Avenir. Christian Martin au microphone. Joyeux Noël à tous ceux qui le fêtent et merci à Ezoa pour le petit mot d'introduction en début d'émission. Comme mentionné lors d'un précédent podcast, Ezoa vit en Belgique et est très impliquée auprès de LibriVox.org. Pour nous, elle est la voix de Carl dans cette présente aventure. Vous avez également pu l'entendre récemment dans Grand-père, disponible via notre blog, et fait partie de plusieurs de nos prochaines productions. Petit rappel, si ce podcast est le premier des éditions de l'Avenir que vous attrapez au vol, vous voudrez sans doute, avant de l'écouter, vous rendre sur le site qui héberge nos émissions à www.gcast.com/user/terran932 TERRAN932/podcast/main et télécharger les quatre précédentes puisque celle-ci présente la conclusion d'une histoire commencée avec le tout premier podcast Carl et nos vies complot sur Alpa. Lorsque nous avons laissé nos héros la semaine dernière, l'infâme Hélène March venait d'ordonner leur mort. Et sans plus attendre, la conclusion de Carl et Novi, complot sur Alpa.
Les éditions de l'Avenir présentent Complot sur Alpa, une aventure de Carl et Novi, adaptée du roman de Christian Martin, paru à l'origine en 1998.
Chapitre 11, Au cœur de Yahim.
Dans la nuit déjà avancée, le glisseur de Chara tourne au-dessus d'un point fixe, au cœur de la chaîne des Gahim.
Peut-être le localisateur est-il tombé en panne ?
Non, si c'était le cas, on ne percevrait plus le signal d'émission.
Hélène March l'a peut-être découvert dans sa valise. Si c'est le cas, elle l'a sûrement arrêté.
Non, ce n'est pas ça. On aurait alors le même résultat que s'il était tombé en panne.
Explique-moi alors pourquoi le signal a soudainement faibli ?
Je ne sais pas. J'ai d'abord cru que Hélène March avait soudainement accéléré, augmentant ainsi, d'un coup, la distance entre son glisseur et le nôtre. Mais ce n'est pas le cas, de toute évidence. Le localisateur ne bouge plus, nous en sommes à la verticale et le signal est toujours aussi faible. Je ne comprends pas.
Tu crois que le glisseur du professeur March aurait pu se cracher contre la montagne ? Ce ne serait pas la première victime que feraient les Yahim.
J'en doute. D'accord, il fait nuit, mais depuis le temps que nous tournons en rond, nous aurions vu des traces de l'accident. Non. Le localisateur ne fonctionne pas normalement, c'est vrai, mais il ne semble pas vraiment endommagé non plus. C'est plutôt comme si un mur très épais nous en séparait.
Il est peut-être sous terre.
Quoi ?
Hmm ?
Qu'est-ce que tu viens de dire ?
J'ai dit qu'il était peut-être sous terre.
Mais bien sûr, tu es un génie. Trouvons l'accès.
L'accès ? À quoi ?
L'accès qui nous permettra de rejoindre le localisateur, bien sûr. Là où se trouve le localisateur, là se trouve également Hélène Marsh.
Je ne sais pas si...
Qu'est-ce qu'il y a ? On dirait que tu as vu un fantôme.
Je n'aime pas m'aventurer dans ces montagnes.
Il n'y a pas de danger, le rapport météo annonce du beau temps.
Je sais, mais ce sont les Yahim.
Et alors ?
Mon père...
Oh Carl, je suis désolée. J'avais oublié. Ton père, c'est dans ces montagnes qu'il est mort.
Oui.
Tu sais, si on veut retrouver nos vies...
Je sais. Allons-y.
Prof.
Oui, Shara ?
Tu peux nous fournir une carte de cette région des Yahim ?
Tout de suite.
Carl, tu devras te charger de me guider. Le pilotage dans ces montagnes va me demander toute mon attention. Je n'aurai pas le loisir de regarder la carte.
Entendu.
Tu vois une grotte ou une entrée de caverne ? C'est la seule voie d'accès pour se rendre sous terre.
Attends que je me repère. Nous sommes ici. Il y a bien quelques grottes isolées, mais aucune ne semble mener au localisateur. À moins que... Ici, le réseau de cavernes du mont du lac semble s'étendre dans la bonne direction. Mais je ne te garantis rien. Depuis l'avalanche qui a coûté la vie à mon père, personne n'a repris l'exploration souterraine des Yahim. Aussi, les cartes sont incomplètes.
Où se trouve ce mont du lac ?
À 5 minutes de vol au nord-est.
Parfait. Allons-y.
Nous y sommes, je crois.
Drôle de montagne. En comparaison des pics qui l'entourent, ses pentes semblent plutôt douces et on dirait que le sommet est arrondi. Allons voir là-haut. Je n'en crois pas mes yeux. Tu vois ce que je vois ? Il y a un lac au sommet. Il n'est même pas gelé.
Prof, tu peux nous expliquer ça ?
Le mont du lac est d'origine volcanique. Son cratère et ses pentes adoucies furent formés au moment d'une importante éruption, bien avant l'arrivée des premiers humains sur Alpa. Au cours du temps, le volcan s'est refroidi et l'eau des précipitations s'est accumulée dans son cratère, formant un lac.
Et comment expliques-tu que l'eau ne soit pas gelée ?
Avant sa dernière expédition, Chris Terobe avait émis l'hypothèse que le volcan connaissait encore une certaine activité et que cette activité était suffisante pour réchauffer l'eau du lac et l'empêcher de geler.
Je vais faire redescendre le glisseur en spirale autour du mont du lac. Avec un peu de chance, nous trouverons une grotte par laquelle nous pourrons pénétrer dans le réseau de cavernes. Rien, rien de rien, pas la plus petite grotte. Je croyais que ce mont du lac était criblé de cavernes.
C'est ce que dit la carte. Ce n'est tout de même pas de ma faute si...
Tu ne sais pas lire une carte ou quoi ?
Si tu es si bonne, fais-le donc. Xena a raison. Nous ne gagnerons rien à nous bagarrer.
Je suis désolée.
Moi aussi.
Gardons-la ensemble, cette carte. À nous deux, nous trouverons bien ce foutu passage.
Regarde.
Oui, tu as raison. Selon la carte, il y a un réseau important de cavernes qui relie le mont du lac à l'emplacement où se trouve le localisateur. Mais pas de moyen d'y accéder directement.
Et ici ?
Le versant voisin ?
On dirait bien que cette grotte rejoint un couloir qui la relie au réseau de cavernes, non ?
Oui, tu as raison ! Ne perdons pas de temps. C'est ici.
Là, la grotte !
Oui, et l'ouverture semble assez grande pour laisser passer le glisseur. Qu'est-ce qu'elle a, Xena ?
Je n'en sais rien. Je ne l'ai jamais vue dans cet état.
Tu ne peux pas la calmer le temps que je manœuvre dans la grotte ?
Du calme, Xena. Du calme. Rien à faire.
Nous touchons au but, car j'en suis certaine. Et Xena le sait. Nos bébés sont tout prêts.
Oui, je crois que tu as raison.
Je pose les glisseurs ici. De toute façon, impossible d'aller plus loin.
Deux tunnels s'ouvrent au fond.
Tu as vu que Xena est sortie du glisseur comme une bombe ?
Apparemment, nous n'aurons pas à nous demander quel couloir nous devrons emprunter. Xena semble persuadée que celui de droite s'impose.
Et je suis toute prête à la croire. Viens.
Heureusement, Xena nous attend à l'entrée du tunnel. Sinon, je n'irai pas bien loin avec ma cheville. Elle nous invite à prendre place sur son dos. Accroche-toi.
Novi ? Non, je ne peux pas l'avoir ressenti. Il est enfermé dans une cage blindée. Et pourtant, la présence est ténue, fragile. Mais c'est bien Novi ! J'ai retrouvé Novi ! Le contact est enfin rétabli ! Mais comment ? Les cages blindées ? Elles ne sont sans doute pas aussi efficaces que le supposent les ravisseurs. Du moins à faible distance. Novi ! Malheureusement, le lien est encore trop fragile pour savoir si tu m'entends, mon tout beau. Mais tiens bon, nous arrivons. Oh, il me semble distinguer de la lumière au loin. Oui, c'est bien ça ? Le bout du tunnel ?
Toutou, Xena, toutou.
Garde, j'ai une nouvelle contacte avec Olia.
Génial.
Voici sans doute ce qu'Hélène Marsh appelait le secret. Un vaste laboratoire installé dans une caverne immense. Ses tubes lumineux sur les murs, ses comptoirs pleins d'instruments, et tous ses chercheurs en sarrau, tous très occupés.
Vois-tu Hélène Marsh ?
Là, devant le panneau de contrôle.
Mais qu'a-t-elle donc à toujours regarder à sa droite ? Qu'y a-t-il donc à sa droite ? Une cage ! Et à l'intérieur ?
Olivia !
Chapitre 12, au dernier moment.
La sécurité, elle arrive.
La sécurité ? Je me demande bien comment elle a été informée de la présence du secret. En tout cas, on peut dire que son arrivée sème la panique parmi les chercheurs. Seule Hélène Marsh ne semble pas affectée. Elle est toujours là, pianotée sur le panneau de contrôle près de la cage où sont enfermés Novi et Ulia.
Regarde la cage.
Mais elle s'enfonce ! Non, Novi !
Hélène Marsh s'enfuit !
Ice, que faire ? Suivre Hélène Marsh ou la cage ?
Xena, où vas-tu ? Attends !
Regarde, elle se dirige droit sur la cage. Suivons-la. Vite, vite, Carl !
Pas facile avec cette foutue cheville !
La cage a presque entièrement disparu dans le sol.
Je le vois bien.
Encore un effort, nous y sommes presque.
Ah !
Ouf, nous y sommes sains et saufs.
Parle pour toi.
Le panneau vient de coulisser juste au-dessus de nous.
Ouais, faisant ainsi disparaître toute trace des bébés Hainich. Si nous n'avions pas suivi Xena...
Où sommes-nous ?
Dans une sorte de puits, apparemment.
Il fait noir ?
Pas tant que ça. Il y a de petits hublots lumineux percés à même le puits qui nous éclaire à intervalles réguliers.
On ne descend plus.
On progresse à l'horizontale.
Heureuse que le caisson est ralenti, je n'aurais pu tenir bien longtemps à une telle vitesse.
Moi non plus, mais on a dû faire du chemin.
Où avons-nous été bouchés ?
Dans une grande caverne, on dirait une sorte de hangar. Verdâtre.
Oh, regarde là-bas.
Un aviso?
Non. Que viendrait faire ce type de petit vaisseau spatial au beau milieu d'une caverne?
Rien de bon. Regarde ce qu'il y a juste au-dessus.
On dirait... de l'eau?
Oui, de l'eau. À mon avis, nous sommes au cœur du mont du lac. Et ce que nous apercevons, c'est le cratère rempli d'eau. Un cratère artificiel! Ice, voilà ce que je redoutais.
Dirait que le lac se rétracte. Oh, je vois une partie du ciel!
En effet, tout le mont du lac n'est en fait qu'une rame de lancement pour l'aviso. Et celui-ci se prépare à décoller.
Non! Tu ne veux pas dire que...
quelqu'un s'apprête à quitter Alpa.
Pas avec mon bébé tout de même!
Tu veux parler? Regarde, le caisson avec sa cage et nous va s'arrêter juste sous l'aviso.
Nous montons
droit dans la soute de l'aviso.
Ça vibre.
L'aviso est sur le point de décoller. Il faut l'en empêcher. Vite, au poste de pilotage. Xena, tu peux nous y emmener? Vite, sur son dos. Là, le poste de pilotage. Hélène marche devant les contrôles. Elle est si absorbée qu'elle ne nous a pas entendu venir. À nous d'en profiter. D'abord, descendre de Xena.
Aïe! Vous! Que faites-vous ici? Vous ne m'aurez pas!
Xena, attaque!
Elle s'est assommée.
Et maintenant, coupez les moteurs.
Vite, Carl, coupe les moteurs. On ne doit pas décoller.
C'est loin d'être simple. Pour couper l'alimentation des propulseurs, je dois d'abord interrompre la programmation de la séquence de lancement.
Et alors?
Et alors? Ce n'est pas moi qui l'ai programmée, cette foutue séquence de lancement.
Carl!
Chut! Ah, je crois que j'y suis. Oui. Ouf.
Épilogue, retrouvailles. Plus tard, dans un dôme médical pas trop loin du secret.
Alors, docteur?
Rassurez-vous tous les deux. Vos bébés et Niche vont bien.
Alors pourquoi ils ne se réveillent pas?
Ils sont encore sous l'effet du narcotique qu'on leur a administré.
C'est dangereux pour leur vie?
Non, pas la dose qu'on leur a fait prendre. Je vais quand même les garder ici jusqu'à leur réveil pour plus de sûreté.
Merci, docteur.
Merci, docteur.
A-t-on rejoint les parents de ces jeunes gens?
Non, docteur. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir essayé. Mais je n'obtiens aucune réponse, ni chez les Rin, ni chez les Térobe.
C'est quand même étrange. Ma mère ne quitte jamais la maison.
Ce qui n'est pas le cas de mon père.
Chara, Carl, comment vont les bébés Niche?
Ils dorment toujours.
Mais le docteur dit que ce n'est pas dangereux. Et de votre côté, quelles sont les nouvelles?
Quelques membres du secret ont réussi à s'échapper. Mais nous avons réussi à capturer le plus grand nombre. Et surtout, nous avons Hélène Marsh, grâce à vous. Les premiers interrogatoires nous indiquent qu'elle était à la tête de toute cette organisation. Du moins, sur Alpa.
Avez-vous arrêté son assistant, le barbu au gelet?
Pas encore. Il reste introuvable. Mais nous l'aurons. Nos interrogatoires des membres du secret ont révélé autre chose.
Quoi?
L'avalanche qui a coûté la vie à Chris Térobe et à son équipe de géologues n'était pas un accident.
Quoi?
Apparemment, le père de Carl et son équipe ont découvert le secret alors en construction lors de leurs explorations. Il était bien sûr hors de question qu'on les laisse repartir pour répandre la nouvelle.
Carl.
Carl.
Chara.
Maman. Papa.
Ça va, mon grand?
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces heures d'enterrement?
Pas les bébés.
Non, Oulia et Novi vont bien. C'est autre chose.
Alors?
Je viens de leur annoncer que l'avalanche qui a tué Chris Térobe n'était pas un accident.
Les gens du secret?
Oui.
J'aurais dû m'en douter.
Mais comment avez-vous su que nous étions ici? L'assistante du docteur disait ne pas être parvenue à vous joindre.
Xena.
Elle nous a tenus au courant tout au long de vos péripéties, par le lien télépathique avec Clara. Si elle ne nous avait pas ordonné de rester à l'écart, nous serions intervenus beaucoup plus tôt. Le moment venu, elle a informé Clara de l'emplacement du secret et nous avons averti la sécurité.
Nous étions déjà dans la région des Yahim, intrigués par l'émission d'un certain localisateur.
Regarde, Karl. Nos vies s'éveillent.
Bonjour, mon beau.
Bonjour, Karl. Je savais que tu viendrais.
Mon Novi, mon tout beau, j'étais tellement malheureux, tellement seul, tellement vide sans toi. J'aurais retourné le monde pour te retrouver.
Je sais.
Comme tu m'as manqué.
Karl ?
Oui, mon beau ?
J'ai faim.
Voilà qui met fin à notre histoire, en espérant que vous aurez aimé. Les interprètes pour cette cinquième et dernière partie ont été Ezwa dans le rôle de Karl Terob, Florence dans le rôle de Chararine, Naf dans le rôle de Novi, Claude Kouvo-Farchi dans le rôle d'Hélène Marsh, Joanne dans le rôle de Clara Terob, Aldor dans le rôle de Maureen, Amy dans le rôle de l'agent de la sécurité, Bernard dans le rôle du prof informatique, Alexandre dans les rôles du scientifique du secret et du docteur, K00 dans le rôle de l'assistante du docteur et moi-même à la narration. Merci une fois de plus à tous les volontaires qui se sont impliqués dans ce projet, qui lui ont donné vie. Je rappelle que l'histoire et les personnages appartiennent à l'auteur et sont protégés par copyright. L'enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons et est une production 2009 des éditions de l'Avenir. La semaine prochaine, je vous présenterai La variété adénique de Mario Fecteau, enregistrée en avril 2008. Nous resterons dans le domaine de la science-fiction, mais nous changerons complètement de registre. Qui est Mario Fecteau, demanderez-vous? Tout d'abord, il est québécois. Je l'ai connu à l'époque où je publiais le fanzine Tantôt, auquel il a participé activement comme auteur et chroniqueur. Mario Fecteau est aujourd'hui un romancier professionnel. Il a publié Gaylord et L'envol du dragon chez Boréal, mais il est surtout l'auteur de l'excellente série de fantasy Les Maîtres du Pentacle, publiée chez Michel Quintin. Allez jeter un coup d'œil sur le site de la série à Maîtres du Pentacle, maîtresdupentacle.com. C'est superbe. Le tome 3 de 5 doit en principe sortir en février. Et voilà qui complète notre émission. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.